Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Ouais, alors c'était ce qu'auraient pu chanter les hedge funds et les financiers il y a quelques jours. Il est des nôtres. Alors rappelez-vous, il a perdu il y a deux mois. Le voici aujourd'hui aux commandes. Richie Sunak, 42 ans, ex-Goldman Sachs, ex-gérant de hedge fund quand même. Hein. Il est des nôtres, hein, disent les financiers. Il est face à une situation économique et politique qui est évidemment désastreuse. Alors, il fait un comeback, hein. Ça c'est clair quand même. Est-ce que ça marque le début du comeback de la Grande-Bretagne, Ben Aouda?
Alors, il va falloir déjà en convaincre les Britanniques eux-mêmes, et y compris l'establishment dont provient Rishi Sunak. La veille de la démission de Liz Truss, vous avez peut-être vu ce papier dans le Financial Times, dans le The Economist, The Economist, c'était Welcome to Brittany, bienvenue en
Brittany. C'était la couverture d'ailleurs.
Exactement, avec une combinaison,
Brittany, hein, donc oui, il y avait exactement. Un jeu de mots sur...
Oui, parce, vous avez bon, compris. Et puis bon, The Economist adore se faire l'arbitre des élégances, mais bon, peu importe. Mais en soulignant trois points, la même instabilité politique, la même faiblesse de la croissance potentielle et la même subordination au marché obligataire. Donc, ce n'est pas parce que Rishi Sunak, par les hasards de l'histoire et disons des combinaisons internes au Parti conservateur, est parvenu à surmonter en 45 jours la perte qui était la sienne auprès de la base électorale du Parti conservateur, que tout a changé. D'autant que c'est frappant, il est des nôtres, comme vous le disiez, mais Jalan Ganesh, qui est un éditorialiste international du Financial Times, expliquait que parmi tous les premiers ministres qui sont succédés depuis le référendum du Brexit en 2016, c'est le plus résolu, le plus déterminé dans le Brexit.
Oui, c'est ça.
Donc c'est ça ce qui est.
C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il est des nôtres, en fait.
Il n'est pas des nôtres.
Il n'est pas des nôtres.
Alors, il est jeune, dynamique, il a ce CV, il a épousé une très grande, très très grande fortune indienne, de prime abord, comme il représente la mondialisation dans toute sa splendeur
dans sa magnificence. Il y a effectivement...
Mais il est extrêmement britannique dans le fond de sa pensée, c'est-à-dire il colle aux idées majoritaires du Royaume-Uni. De ce point de vue-là, il n'est pas des nôtres, encore pour reprendre une fois encore votre expression.
Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que voilà, la Grande-Bretagne, ça y est, c'est fini, c'est devenu un pays émergent, un pays de deuxième catégorie, déclassé? Et que de toute façon, c'est la fin de la fin de l'Empire britannique, ça fait un moment, mais là, c'est vraiment l'achèvement final.
Après, ils ont une faculté à pouvoir surprendre qui est quand même extraordinaire.
À rebondir.
À rebondir. Pour reprendre encore une surprise, lorsque vous voyez la réaction de Joe Biden, le président des États-Unis, lorsqu'il a appris que c'était Rishi Sunak, il n'a eu ces mots-là pour absolument aucun autre chef d'État ou de gouvernement nommé depuis qu'il est en poste, en disant ces gens-là arrivent toujours à nous surprendre. Effectivement, le Royaume-Uni parvient à surprendre. C'est ce type de profil-là que le Royaume-Uni, la classe politique, parvient à faire surgir des Tony Blair, on verra s'il est, disons, à la hauteur historique de Margaret Thatcher ou d'un Tony Blair. Mais en tout état de cause, c'est quelque chose. Et puis, un deuxième point qu'il va falloir qu'il surmonte, c'est son déficit de légitimité simplement démocratique. Alors, il y a ce que disent certains.
Parce que c'est pas un élu de terrain.
Oui, non, mais il est député, il est élu, parce qu'au Royaume-Uni, il faut être élu.
C'est déjà pas mal.
Mais il est un peu dans la configuration qu'a été de Gordon Brown. Gordon Brown est arrivé au 10 Downing Street. Il est resté pendant 3 ans en étant premier ministre, mais sans avoir été élu sur son nom. Et c'est un peu le cas. Il a dû partir ensuite. Donc, est-ce qu'il va pouvoir en 2 ans remonter une pente qui, effectivement, lorsque vous regardez les...
Avec des gens qui vont lui s'abonner, Boris Johnson, il attend que ça.
Il l'a dit, la veille, il l'a dit, je reviendrai en 2024, la veille de l'élection lundi. Donc, vous dites que ça va être extrêmement dur pour lui, mais s'il parvient à rétablir ne serait-ce que un tout petit peu le système de protection sociale, redresser la barre du point de vue du déficit courant, et éventuellement, encore une fois, relancer la croissance économique tout en contenant la facture énergétique. Bon. Il a une chance en 2024, pourquoi pas. Mais ça fait beaucoup de si. Ceci étant, il est fortement remonté très vite dans les sondages, ce qui est peut-être, il y a peut-être un élan pour lui.
Michel Rumi, c'est le sauveur d'une Grande-Bretagne qui est en perdition ?
Je crois pas. Je crois pas parce que c'est une victoire par abandon, puisqu'il a prononcé rien du tout. Il a été élu, et d'autre plus, il a été élu par ses pairs, on va dire Parti conservateur, pas par la représentation nationale. Donc il y a un déficit de légitimité, les gens ne se retrouvent pas. À la limite, le caractère, et je dis bien, un caractère de Boris Johnson serait plus proche de la population anglaise que Rishi Sunak. Donc il y a un déficit. Donc il doit convaincre déjà là-dessus. En même temps, il est débordé par les travaillistes, parce que aujourd'hui, si on fait des élections, il serait perdant. Donc il a dit, il faut s'unir ou mourir. Il a adressé à ses partenaires conservateurs de dire ça. Donc, on voit déjà qu'il y a du travail sur la planche. Et puis, deux ans, c'est très court, en espérant que rien ne se passe, puisque les deux dernières années ont été un peu mouvementées dans le monde. Donc, les problèmes sont là. C'est pas si simple. Déjà, on voit qu'il a reporté son programme budgétaire à mi-novembre. Et puis, en même temps, ça perturbe un peu, en même temps, la politique de la Banque centrale, puisqu'elle devait remonter ses taux et tout. Donc, ça pose ce type de problème. Donc il devra piloter le fine-tuning, et c'est pas si simple que ça dans un contexte où c'est compliqué en Angleterre. Pour nous, ça pose aussi en tant qu'Union européenne, ça pose des problèmes parce que c'est un partenaire qui pouvait apporter des choses, et là on a une zone encore d'instabilité avec l'Italie, avec l'Allemagne. Ça pose ce type de problème à l'intérieur et à nos portes.
Ben Aouda, on est quand même dans les conséquences du Brexit. On vit toujours les conséquences du Brexit, parce que les gens me disent, ah oui, c'est la crise d'Ukraine et l'inflation. Non, on est dans le Brexit, là.
Non, bien entendu, on est toujours dans le Brexit. Et on tente d'occulter cela, mais effectivement, et somme toute, Rishi Sunak, c'est le premier. Hein, quand on y réfléchit bien, c'est le premier chef de gouvernement du Brexit. Encore une fois, il y a un tel décalage avec la personnalité, le fait que ça soit le premier asiatique, comme on dit là-bas, ce qui est révolutionnaire, historique, pour le Royaume-Uni. Occulte, c'est ce facteur-là qu'il est le représentant du Brexit qui accède au pouvoir et qui va devoir assumer les choix de son peuple en 2016.
Et trouver un modèle. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas de modèle. Le modèle, c'était un peu Singapour on Thames, mais Liz Truss a essayé.
Le problème, c'est que...
Et en deux mois, ça a été dégagé.
Et non seulement ce Singapour sur la Tamise n'est pas possible, mais en plus de ça, lorsque vous voyez par exemple qu'il remet en cause les éléments de puissance, de projection de puissance du Royaume-Uni, parce que Liz Truss avait dit que ça sera 3% du PIB qui sera consacré à la défense en 2030. Il comprend bien qu'il ne peut pas augmenter d'1% du PIB pour aller à la défense. Et là, il remet en cause aussi cette projection de puissance. Donc, il va y avoir des écueils extraordinaires à surmonter pour lui.
Jérôme Fauvel, un mot ?
Juste, pour avoir traversé dernièrement le Pays de Galles en vélo... C'est-à-dire en faisant plusieurs centaines de kilomètres sans passer par les grandes villes et connaissant toutes les régions d'Angleterre en vélo, très franchement, j'ai été frappé par l'environnement économique que je n'avais jamais ressenti en Angleterre. C'est-à-dire qu'il y a des restaurants, il y a des hôtels, pardon, qui ne font plus restaurant parce que ils n'ont pas de personnel, ils n'ont pas de...
Vous voulez dire, vous avez ressenti la crise ?
Ah, franchement, oui.
Vraiment ?
J'ai ressenti...
Donc vous avez ressenti ce que décrivent certaines personnes en disant le déclassement de la Grande-Bretagne ?
Ah, je l'ai vraiment ressenti, et je pense que s'il y avait des élections, parce qu'en fait, quelque part, le Parti travailliste demande des élections, moi, je pense que le Parti travailliste passerait.
Ah oui, largement, de toute façon, dans les sondages...
Le problème reste...
Un petit mot, Léa, sur l'aspect climatique.
Oui. En fait, il ne vient pas à la COP27, c'est très dommage. Il faut rappeler que c'est quand même l'Angleterre qui a accueilli la précédente COP. Alors évidemment, il y aura des représentants...
Il pourrait y avoir le roi. Donc,
Oui, effectivement, qu'il y avait eu une sorte de figure un peu parrain lors de la précédente. Enfin... C'est dommage parce qu'ils ont une carte à jouer de ce point de vue-là. Et bon, il y a une urgence. La gronde sociale, je suis tout à fait d'accord, à mon avis, est ce qu'il craint le plus. Bon, on le verra.
Vous le déplorez.